des gens de Normandie qui cherchaient des adresses de parce qu'on est content qu'il y en avait aussi quelques-uns en Normandie, si j'ai bien compris, donc des adresses de gens qu'ils ont aidés à. Ils ont aidé l'évasion et ils cherchent des traces parce qu'ils ont envie de les retrouver.
C'est la grande mode, ça, aujourd'hui.
Oui, mais ça
fait
des
adhérents du Front
Normand.
Oui, oui. Alors, il y a des choses qu'on n'a jamais sorties. Par exemple, c'est surtout les SS qui sont montés du Sud. Hein. La brigade d'Das Reich, hein, ils sont montés vers le nord, vers la Normandie. Ils ont pratiquement tous été exécutés. Les Américains ne regardaient pas plus que les. Les Soviétiques, quand ils voyaient un SS, ils l'abattaient. Et on a des traces par les familles, on a des éléments très très importants sur cette histoire, ce qui s'est passé, c'est-à-dire des dizaines de soldats alsaciens qui ont été exécutés sur le champ, sur le front de Normandie, par les Américains. Ça, c'est des choses qui ont été. Même des Alsaciens qui n'étaient pas SS non plus, hein. Maintenant, on essaye de les réhabiliter, enfin de faire quelque chose pour eux. Quoi. Mais c'est ça la grande affaire du Front de Normandie, en dessous par en dessous. Parce que ça aussi, c'est les faits de guerre. Les gens exécutés d'office, que ce soit sur le front russe ou sur le front occidental.
Schön, dass Sie ich bin 1977 in Straßburg geboren, als richtiger Elsasser. Et j'ai mené une vie assez variée. Et j'ai vécu entre autres 2 ans et demi en Australie. En Australie, ils ont une fête patriotique qu'ils appellent Anzac Day. Certainement, je ne sais pas ce que c'est. Lorsque de la Première et la Seconde Guerre mondiale, l'Angleterre, qui était une colonie, Première Guerre mondiale, c'est un état indépendant, ont fait un corps spécial. Australian, New Zealand, American Army Corps en 5. Et ils fêtent, les vétérans fêtent pour une journée en Nouvelle-Zélande et en Australie, la fête de ces vétérans, de ces combattants, en 5 Day. Et la Première Guerre mondiale aussi. Et ce qui m'a frappé, et j'ai assisté à ces défilés de Saint Martin's Place, pour ceux qui connaissent Sydney, c'est comme la place privée chez nous, un défilé de vétérans, évidemment, la Première Guerre mondiale, il n'y en avait plus. La seconde. Et il y avait autant de jeunes que de vieux. Donc des jeunes qui avaient 15 ans, ça s'est passé il y a 20 ans. Je n'étais pas là. Et il y a des analogies en ce sens, ce qui n'est pas caché de moi. Si vous êtes la minorité des jeunes, hein, c'est que les têtes chenues qui sont. Et c'est que pour la Première Guerre mondiale, les Australiens estiment qu'ils ont été envoyés au front malgré eux et malgré nous. Parce qu'on n'aura pas demandé leur avis. Et on les a mis tout de suite sur le front en Turquie, Gallipoli. Ça ne vous dit rien. Mais tous les Australiens savent ce que c'est Gallipoli. C'est près de Bosphore, et on les a envoyés au canon, c'était Churchill qui commandait, et ils ont eu 20 000 tués en l'espace de 2-3 jours. Hein. Et ils ont estimé qu'ils ont payé un prix, ils se sont battus pour une cause qui n'était pas les leurs. C'est après cette Première Guerre mondiale que le sentiment nationaliste australien, ils ont voulu être indépendants, un pays indépendant. Il y a des analogies. Et surtout, moi, ce qui m'a frappé, hein, pour tirer dans votre conclusion, les jeunes se sont concernés, les enfants. Hein. Moi ça m'a frappé, il y avait autant de jeunes, et tous les ans il y a la Anzac Day. Or, ici, vous voyez bien l'intérêt, c'est les vieux comme moi, hein, c'est comme ça, je constate. Oui, je sais, il y a des excuses.
Je constate. Une grande différence, c'est qu'en Australie, c'est une histoire officielle, enseignée, reconnue officiellement. L'histoire des armes de force en Alsace n'a jamais été reconnue, ni enseignée.
C'est bien ce qui
elle a été cachée, à commencer par les auteurs eux-mêmes, par les armes de force eux-mêmes, elle a été cachée, elle n'était pas transmise, mal transmise, hein, souvent cachée. Elle ne fait pas partie de l'histoire officielle, en tout cas, depuis 1945 jusque dans les années, je ne sais pas quoi, 70, pendant... 10-20 ans, c'est une histoire assez cachée, puisque très très vite, après 1945, c'est l'histoire de la libération, c'est l'histoire de la France, c'est l'histoire de l'Alsace qui est sauvée par De Gaulle, c'est le gaullisme alsacien qui passe, c'est le discours dominant, c'est pas le discours de la douleur alsacienne, de cette douleur-là qui a connu, contrairement à l'Australie. Je pense que c'est une des réponses possibles.
Et le gaullisme et la démocratie chrétienne en Alsace, on est le couvercle, c'est tout ça.
Absolument.
Et je pense que c'est pas un hasard si ça ressort, effectivement, à partir du moment où l'Allemand l'a sorti dans Saison d'Alsace, hein, les différentes années de l'annexion ici. Oui, voilà. Et on peut dire que, bon, je sais pas, quand on voit bon, Roland Ruiz, qu'est-ce qu'il a fait, quoi. Effectivement, on peut dire que voilà, la génération des enfants, quoi, commence à sortir un peu les choses. Hein. Mais il reste encore, comme tu dis, à faire une histoire officielle, quoi.
Il faut bien enseigner dans les. Il faut pas, non pas une façon de. Optimiser aussi, parce que on ne sait pas si grave que ça, parce qu'il y a eu des bouquins, mais tout le temps, tous les ans, sur la corrélation de force, les mémoires écrites. On n'en parlait pas. Et ça, c'est faux, ça. C'est les sociologues qui pensent que parce qu'eux sont là, maintenant, on en parle, et c'est une vérité intellectuelle de dire, on en parle tout d'un coup, et avant, on n'en parlait pas. On en parlait, mais ça n'attirait pas tellement l'attention que maintenant. Puisque la mémoire est devenue le centre des préoccupations. Avant, la mémoire, on s'en fichait.
C'était de la littérature de victimes. Hein? C'était surtout de la littérature de victimes.
Victimaires,
de gens qui racontaient leur histoire. Ouais. Mais les historiens ont mis du temps à publier des ouvrages.
Et alors, pour les livres d'histoire, c'est ce qu'on a toujours reproché au gouvernement français, aux autorités de toutes sortes, qu'il n'y avait rien dans les livres d'histoire. Les incorporés de force, je les ai pratiqués pendant 20 ans. Ils sont toujours les chemins, mais il n'y a rien, Alors ils ont envoyé du courrier au ministère de l'Éducation nationale en disant, voilà. Alors, je ne cessais de leur dire, le livre d'histoire, dans un régime libéral et parlementaire comme la France, le ministre de l'Éducation nationale ne va pas dire ce qu'il faut mettre dans le livre d'histoire. C'est l'éditeur qui sollicite un auteur
avec
un
les inspecteurs de l'éducation nationale, avec les inspecteurs de l'éducation nationale de la discipline, qui participent à la rédaction des bouquins.
Mais ils se gardent de s'embarquer dans une histoire comme ça, de dire ce qu'il faut mettre dans un livre. Alors j'ai toujours dit, mais adressez-vous donc bon sang aux éditeurs, Hachette et tous ceux qui écrivent des bouquins d'histoire. Tout d'un coup, vous aviez dans un livre d'histoire un passage sur l'incorporation de force ou sur la guerre en Alsace. Pourquoi ? Parce que l'un des historiens était au courant. C'est eux qui écrivent les livres. L'éditeur leur dit, voilà, c'est la période X, les grandes lignes, c'est ça. Le ministère met les grandes lignes en place et les auteurs font les livres. Alors, s'il n'y a pas eu de truc dans ces papiers, c'est qu'il n'y avait pas de groupe de pression local. C'est qu'ils n'ont pas été fichus de comprendre, au bout de 10 ou 20 ans que je leur disais, adressez-vous aux maisons d'édition pour que les auteurs soient alertés sur une question qu'ils ne connaissaient pas plus que les autres. Hein. Les Bretons se fichent complètement de l'histoire d'Alsace, comme les Alsaciens se fichent de l'histoire bretonne aussi. Hein. L'Alsace n'est pas non plus le nombre du monde, donc il faut mettre en place des groupes de pression, il faut se défendre, et vous auriez eu un passage dans les bouquins sur la guerre en Alsace. Ça, c'est le problème est là. Souvent, il n'est pas au sommet, il est ailleurs.
Ouais, Jean-Marie. J'avais une autre question qui n'est pas tout à fait liée à ce que vous venez d'évoquer. Il y a plusieurs associations d'anciens incorporés de force, etc. On dit souvent qu'elles sont un peu en vis-à-vis les unes avec les autres. Alors, est-ce que c'est simplement des questions de personnes ou est-ce qu'il y a des différences de fond qui opposent ces différentes associations?
Non, mais en Alsace, quand même, j'entends dans le Bas-Rhin, c'est encore pas pareil dans le Haut-Rhin, en Alsace, l'association des incorporés de force n'avait pas beaucoup de militants, d'adhérents, mais eux étaient depuis toujours inconditionnellement dans le mouvement, enfin, qu'on appelle gaullisme, mais ça fait longtemps qu'il ne l'est plus. Il y avait Bayard. Ensuite, il y a eu Mingès, qui a été président jusqu'à si très peu de temps, et c'est de nouveau Bayard.
C'est le frère. Qui est vieux, le frère.
Très bien, automatiquement, ils sont très âgés. Je veux dire que, et c'est eux qui... Alors, à côté, il y avait M. Lazarus, qui était le chef des... Enfin, un des... Pas le chef, mais il se dit le chef. Il était au renseignement général à la préfecture. Et c'était ces deux-là qui dirigeaient l'association. Alors moi j'ai eu beaucoup à faire à eux, parce que le temps qu'ils me reconnaissent, ça a mis quand même 10 ans. Et après ils m'ont promu pour le mémorial de Chirac. Parce qu'ils considéraient qu'il y a pire. C'est vrai qu'il y a pire. Bon, donc, alors la mouvance sorinoise était un peu différente aussi. Il y a eu... moins d'adhésion inconditionnellement le mouvement gaulliste. Et si beaucoup ne sont pas venus à la DIF du Bas-Rhin, c'est parce qu'ils étaient centristes de conviction politique. Beaucoup de gens, par exemple, on a vu tout à l'heure un bouquin de Jeanne Phillips, hein. Il n'a jamais adhéré à la DIF, parce qu'il était centriste, chrétien démocrate. Ils s'en plaignaient tout le temps, les gens de la DIF, qu'ils venaient pas, etc. Pourquoi? Parce que c'était quasiment devenu une officine politique. Hein. Et alors ça, évidemment, ça, comment voulez-vous que ces gens-là évoquent la question dans des conditions telles que ça puisse être... Ils avaient tout à cacher, au fond. Ils ne savaient pas... Parce qu'ils voulaient être avant tout des patriotes français. Comment faire? C'est, ça ne tenait pas la route. Et quand tu disais que les centristes tenaient la route, c'était pour l'incorporation de force, c'était la droite libérale gaulliste, quoi. Parce que les autres n'avaient pas le pouvoir de se désincorporer de force. Parce qu'ils étaient légitimés, parce que pendant toute une période, c'est Borde qui contrôlait tout ça. Bien que Borde, il n'était pas heureux dans cette affaire-là. C'était pour des raisons purement électorales, pour se lui dire, je sais, ça l'a accepté. Mais Borde, j'ai eu beaucoup de conversations avec lui sur ces questions-là, à la Fondation François. Son problème, c'est que lui, il était résistant, et il n'avait pas le droit de défendre les résistants parce que c'était l'incorporation de force qui avait le pouvoir mémoriel en Alsace. Donc il était malheureux, il disait tout le temps, mais nous, on n'a pas le droit d'exister. C'est compliqué tout ça. Hein. C'est ce qui est la guerre est une chose, mais après, le travail de la mémoire, les concurrences, ça complique et tout. C'est tout un sujet, n'est-ce pas? On écrit maintenant l'histoire de la mémoire après la guerre. Hein. C'est déjà une grande affaire d'histoire très complexe.
Une dernière question, un peu politique. Est-ce que selon toi, il y a un rapport entre cette histoire et les non-dits, et, enfin tout ce micmac-là, et on va dire le vote Le Pen assez fort quand même dans les campagnes, les petits bouts, tout ça en Alsace? Est-ce qu'il y a un rapport direct et lequel? Ou indirect?
Franchement, il y a actuellement dans toute l'Europe, partout, de l'extrême droite, et puis vous n'allez pas remettre ça en rapport avec l'incorporation de force. Hein. Franchement, non, mais...
Je parlais plus, pas seulement de l'incorporation de force, mais comment dire, parce qu'il y a quand même, là, c'est évoqué, le mot, malgré nous, c'est vraiment le mot victimaire. Quoi, hein. Donc moi, je ressens comme ça que les Alsaciens, mais c'est pas seulement pour cette période, c'est déjà avant. On a l'impression qu'ils se présentent comme ça, plus ou moins consciemment, comme on a été les victimes, alors une fois des Allemands, une fois des Français, et puis alors il y a la période où on a essayé d'être plutôt Alsaciens, donc pendant le Kaiser, là, Guillaume II, et on a le sentiment comme ça qu'il y a quelque chose qui... C'est avant déjà, hein.
Ouais, je vais te dire,
victimaire. Hein.
Le traité de je ne sais plus de quel endroit, là, sur le partage du royaume de l'Empire de Charlemagne, il y a eu un pays d'entre deux. C'était la Prusse, la future Allemagne et la future France. Et entre les deux, on n'en est pas sorti. C'est-à-dire que la continuité en histoire, c'est des siècles et des siècles. Ce n'est pas demain que ça va changer. Et nous sommes dans un de ces territoires, une terre irrédente, etc. Ça ne changerait pas. Ce n'est pas la peine de faire de la polémique historique ou de dire je suis pour cela. C'est que le problème est là. Et il ressurgit à tout instant. Tu peux très bien franciser l'ensemble de la région. Aujourd'hui, il n'y a presque plus personne qui parle alsacien. Quand je veux parler alsacien, il faut que j'appelle ma sœur qui est à Colmar. Ici, plus personne. Donc, pourtant, si j'aime le faire, je téléphone à Colmar.
Tu es sorti sur l'alsacien ici.
Pardon ?
Tu es sorti sur l'alsacien ici.
C'est mon cercle. Il faut y être. Non, pour dire que, à mon avis, telles que les choses se sont déroulées, tu peux franciser l'Alsace maintenant, ou germaniser l'Alsace maintenant complètement. Il est possible que dans 100 ans, 150 ans, Pourquoi le ça revient?
On aura du droit à notre linguisme.
Parce que c'est inhérent à cette région. Tout ce qui est culturel, tout ce qui est histoire longue, ça dure des siècles. Mm-hmm. Et vouloir changer les choses comme
ça. Mais il y a quand même eu des apports de populations nouvelles. Je veux dire, ça, il y avait les Polonais dans la potasse, il y a eu les Italiens, des Espagnols à un moment. Et maintenant, on a des Turcs, on a des Arabes. La population asiatique, elle est plus qu'autre part.
Là, c'est différent, c'est bien d'un autre continent. C'est
quand même très différent. Extra-européen.
Là, c'est d'autres choses. Là, je ne me prononce pas, je ne sais pas. Ouais. Je sais que je suis allé un jour au Racing Club de Strasbourg, il y a très longtemps, dans un vieux tram encore. Et on discutait avec des copains, et puis il y avait un des étudiants africains à l'époque, il y en avait déjà là au bout, c'était une curiosité. Alors, il y avait des bons, des Alsaciens, là, qui étaient en face. Passe mortal d'aller, cartou. Et résultat des courses, l'Africain qui était là, il savait l'Alsacien. Il avait bien lu. Il avait répondu. Autrement dit, on est capable d'absorber tout.
Ouais, c'est ça.
Ou d'être absorbé.
Ou deux, le cas.
Mais les deux sont possibles, hein. C'est selon le vent qui se lève.
Ouais. Bien. Messieurs, dames.